RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters d'Alain Caviglia et de Johan Truchet, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis.
Allez, avec Edouard G à Lyon, bien sûr, qui est un des seuls à se souvenir de Truchet. Mais il était déjà là.
Exactement. Edouard.
Salut Edouard.
Salut Dou. Salut Gilbert, salut coach.
Évidemment, l'évaluation.
T'aurais pu,
oui, j'aurais pu.
Tu t'aurais pu dédier à Lisandro Lopez qui a pris sa retraite. Ce week-end, l'ex numéro 9 en 2009 et 2013,
c'est vrai.
Celui qui a été 186 matchs avec l'OL, 82 buts. Bref,
évidemment, j'avais déjà cité Lisandro Lopez, hein, mais on ne recite jamais un joueur déjà cité.
Ouais. Mais là, voilà, pour l'actualité, lui qui a pris sa retraite ce week-end, et on se souvient bien évidemment de tous ses buts, et notamment de cet écrit qu'il avait mis en huitième de finale retour du côté de Madrid. Ce soir, c'est à la vie, à la mort. On ne peut pas quitter ce stade sans avoir tout donné. N'ayez aucun regret. Bonne chance à tous. Et c'est ce qu'avait galvanisé toute l'équipe. Et après, il avait fait la passe décisive pour Miralem Pjanic. Et derrière, il y avait eu le quart finale. Voilà, en 2010. C'était Licha. La Greta.
Ah, il était bon, hein. Faut dire qu'il faut
apprendre. Ah ouais.
Bref, sacré joueur. Bon, revenons à l'OL d'aujourd'hui, qui est un peu moins flamboyant, faut le reconnaître. D'ailleurs, on va faire l'évaluation après le match à Lille, et puis des débats comme toutes les semaines. Un point face à Lille, satisfaisant. Et puis, comment faut-il maintenant réorganiser la direction sportive avec le départ de Juninho? On en parle tout de suite dans le podcast After Lyon. Edouard, qui a été ton taulier du match du week-end?
Bah, je l'ai souvent tensé parce que, à mes yeux et aux yeux aussi du staff, il était certes soyeux, ça on le connaissait, mais peu bagarreur. Je veux parler d'Oussem Aouar parce que hier, il a quand même fait de bien belles choses. On se souvient de son éclair de la 43e minute sur la passe de Luqueba, l'enchaînement derrière avec le contrôle et ce tir qui passe juste à côté. Mais voilà, il était tout en accélération, en récup, en combativité. Et en fait, finalement, il incarne ce que veut Peter Bosz, comme quoi peut-être que la mentalité, la formation, l'ADN lyonnais, qui est un peu suffisant parfois, on se repose un peu sur ses lauriers, ben, il est compatible avec l'ADN que veut Peter Bosz. Donc on a du soyeux et travailleur. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en exergue Oussem Aouar.
Bon, Roland, Aouar, t'es content de son match?
Oui, bien sûr. Donc, mais c'est sûr que quand on a la chance d'avoir un joueur comme ça, plus Paqueta, qui là n'était pas là, on se dit, tiens, de trouver la bonne formule avec les deux en même temps, ça doit être quand même possible. Et pas beaucoup d'équipes ont ces deux joueurs-là.
Alors, je rappelle juste que Paqueta, il y a une stratégie le concernant Edouard. Hein. C'est pas
ouais,
une stratégie de repos, quoi.
Ouais, en fait, il était suspendu pour ce match-là de
dimanche. Ah oui,
non, ça,
je suis con.
Voilà. Et du coup, en fait, dès jeudi, en Europa League, là où on pensait éventuellement que le coach Bosz allait lui donner du temps de jeu, bien non. Au repos, donc en RTT, 5 jours. Comme ça, il coupe entre mercredi dernier et aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est des RTT ou des congés, mais en tout cas, c'était repos pour qu'il se refasse la santé. Donc, il n'était pas dans ce match qui comptait pour rien en Europa League. Et puis, vu qu'il était soustrait au déplacement à Lille, et bien voilà, qui lui a permis de se faire du repos. C'est la méthode Bosz. Comme il nous l'a dit en conférence de presse, moi j'ai été aussi joueur, j'ai connu ces moments moyens.
Ah bah oui, il avait coach Courbis comme coach. Donc.
Exactement. Et donc, alors peut-être que coach, toi à Toulon, avec lui, tu avais fait ça, un jour il n'était pas bon, donc tu lui avais donné 5 jours de RTT. Ah non, les RTT, ça n'existait peut-être pas à l'époque.
Non, par contre, Toulon, je ne veux pas l'Europe.
Par contre, j'ai donné mon point de vue sur évidemment Aouar. Mais je rajouterai quand même Lopez. Tu sais que ce que j'ai une petite faiblesse pour ce poste-là, dans ce sacré football, et là, il fait encore un match qui doit donner confiance à cette équipe-là, parce que je ne dis pas qu'avec un super gardien, tu es obligé de réussir, mais sans un super gardien, tu es sûr d'échouer. Et là, on a quand même un Lopez depuis le début de la saison qui est quand même très satisfaisant.
Bah, sans doute le meilleur gardien de Ligue 1 sur l'ensemble de la saison. Là.
Ouais,
il doit être
la demi-saison.
Il doit être à 70 arrêts depuis le début de l'année, donc de la saison, en une demi-saison.
Enfin, tu me diras qu'il y a autant d'arrêts à faire, c'est peut-être pas forcément bon signe non plus, quelque part. Tu vois,
oui,
c'est toujours pareil, c'est que quand tu as un gardien qui fait 15 arrêts, c'est qu'il y a peut-être un problème de défense.
Alors là, on en a beaucoup parlé, bien évidemment, souvent ici. On aurait pu le mettre en taulier, mais j'en ai marre de le mettre en taulier toutes les semaines ou presque. Après, hier, on va dire qu'il a fait des énormes arrêts, mais on va dire que c'est là une bonne petite moyenne. On n'est pas sur les 15 arrêts qu'il a pu faire dans certains matchs à Nantes ou ailleurs. Là, c'est des arrêts magnifiques. Je les minimise absolument pas. Je dis juste voilà, qu'il y en a eu deux ou trois. On va dire c'est la moyenne dans un match, parce qu'il faut quand même penser que c'est Lille en face. Hein.
Oui. Voilà. Un boulet, Edouard?
Bah, je mettrais Da Silva. Alors, ça s'explique un petit peu parce que c'est vrai, quand on regarde ses stats l'année dernière, bah, il a fait 30 matchs en Ligue 1, il a fait presque tous les matchs de Ligue des Champions, en tout cas des matchs européens avec Rennes. Et puis là, bah, c'est 360 minutes en Europa League, à peine 331 en Ligue 1. C'était le premier match qu'il a fait en entier hier. 18 minutes en septembre, aucune en octobre, 17 en novembre. Voilà, donc il l'a dit hein, dans une interview à Sud-Ouest, il avait l'habitude de jouer régulièrement. Moins jouer change un peu les choses. J'essaye en discutant avec certains joueurs de participer, d'apporter ma pierre, mais on sent que ça l'affecte. Et puis forcément, bah, il n'a pas forcément le rythme à 33 ans. Bah, ça se voit un petit peu dans ce match.
Oui, Roland, c'est vrai que passer la trentaine, quand tu
Oui,
joues plus trop,
d'accord, mais bon, il y a aussi
c'est dur.
un truc qui me paraît très important, c'est un détail, mais est-ce qu'on va continuer à jouer avec les trois arrières centraux? C'est pas
Aussi.
tout à fait pareil pour Da Silva.
Ouais.
Jouer à trois arrières centraux, faut-il encore trouver la bonne zone, axe côté droit ou carrément dans l'axe? C'est peut-être important pour lui et moins compliqué.
Dernière pause là sur le défense à 5, défense à 3, enfin
Bah
défense à
pour
4, défense à 3, qu'en est-il, Edouard?
L'instant, j'ai l'impression que en tout cas le staff veut privilégier l'aspect défensif de l'équipe. Donc il l'a dit, le coach Peter Bosz, que lors du dernier match à Bordeaux, il voulait se rassurer un petit peu à une défense à 3. Et ce qui est important à noter, c'est que malgré les blessures, parce qu'il y a Denayer qui est blessé, il y a Diomandé qui est blessé aussi, eh bien on reste à une défense à 3, parce qu'on pourrait imaginer que voilà, là il aligne les trois défenseurs centraux qu'il a. Hein. Castello Luqueba, Jérôme Boateng et donc aussi Damien Da Silva. On pourrait imaginer que, vu qu'il n'en a plus que trois, ils vont en mettre que deux titulaires. Ben non, il reste à trois. Parce que j'ai
Ouais,
l'impression, c'est
puis.
plus une impression qu'autre chose, mais qu'il veut d'abord se rassurer au niveau défensif.
Ouais, mais je pense que Thiago Mendes peut dépanner
Aussi.
à ce
Ouais.
poste-là, donc il a quand même la quatrième solution. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est cette formule qui me paraît quand même être, bon, pas seulement la formule à la mode, mais compte tenu des extérieurs et des latéraux qu'il y a, qui sont plutôt bons offensivement que défensivement, c'est peut-être la formule qu'il faut aussi à cet effectif.
D'ailleurs, Roland, ça nous permet d'enchaîner sur le match et d'analyser un peu le résultat, un peu à l'aune de ce qui se fait en ce moment à Lyon, enfin de ce qui passe aussi en coulisses, parce que c'est important. Voilà, je vais faire une transition un peu moisie, mais des fois c'est comme ça, on perd un peu ses mots. Coach, je te la résume plus courte. Prendre un point à Lille dans la situation actuelle de Lyon, est-ce que c'est une bonne opération?
Oui, une bonne opération, surtout pour le moral et pour la confiance. Maintenant, évidemment, il faut se servir de cette solidité, même si solidité, oui, non, mais bon, quand on voit aussi certaines occasions ratées par Lille, là, c'est pas mettre au crédit de Lyon. Mais bon, allez, ça va, cette période-là, elle précède aussi une coupure, la coupure de chaque fin d'année, la possibilité aussi de bien réfléchir, la possibilité de faire une ou deux opérations et de se renforcer, de renforcer l'effectif. Donc c'est sûr que ne pas perdre à Lille, allez, on met ça comme une bonne chose dans la période actuelle.
Bon,
Ouais, parce que
Edouard, ouais, ton avis?
Oui, parce qu'il y a quand même une équipe en forme qui était peut-être aussi sur cette dynamique de la qualification en Ligue des Champions. Il y a ces fameuses 24 heures de plus de récupération, même si jeudi en Europa League, Peter Bosz a fait quand même beaucoup tourner. Il y a ce fameux match à 13 heures qui gêne les 22 acteurs. En l'occurrence, là en plus, il y avait la pelouse. Hein. Là, on est d'accord que c'est pour les deux. Mais moi, j'ai trouvé quand même une équipe qui travaille justement en équipe. J'ai vu Moussa Dembélé, Slimani au pressing qui récupéraient des ballons assez bas qui partaient en contre. Voilà, j'ai parlé pour Houssem Aouar. Moi, dans la situation actuelle, parce que c'est compliqué avec tout ce qui se passe, avec les mauvais résultats, cette 12e place, voire cette 13e désormais avec le point en moins dans la semaine. C'est quand même des moments qui sont un petit peu qui sont difficiles, hein, plus le oui, départ de Juninho pour un certain nombre de personnes. Voilà. Et après, c'est une équipe malade, donc le meilleur médicament, c'est ce que Peter Bosz en conférence de presse, c'est une victoire. Mais un petit point à Lille, c'est quand même pas mal.
Après, il faudra arriver à comprendre, et ça, Peter Bosz est suffisamment expérimenté et intelligent pour le comprendre, lui. Il faut que ce soit lisible, parce que tu as Paqueta et tu joues sans numéro 9, tu n'as pas Paqueta et tu joues avec deux numéro 9. Il faut arriver à suivre par moment, que ce soit les adversaires qui n'arrivent pas à lire ce que fait Lyon. Ça c'est l'objectif du coach. Mais là, il faut que quand même les joueurs lyonnais comprennent un petit peu où c'est qu'on veut en venir dans la structure de l'équipe et dans l'équilibre de l'équipe.
Oui, donc là, il faut un collectif. Et ce collectif, peut-être, qui va naître avec toutes ces options. En tout cas, il y a eu une équipe batailleuse, combative. Donc, je pense que c'est ça qui est important aux yeux du
J'ai vu que le joueur du Zénith, là...
Azmoun.
Oui.
Azmoun, oui. Il a trouvé un accord salarial avec le club. Donc, reste à savoir ce que... Il n'y a pas eu de proposition encore qui est partie de l'OM au Zénith, en sachant qu'il reste 6 mois. Donc, sûrement que les Russes vont demander un petit billet, on va dire. J'ai ouï dire que c'était aux alentours de 3 millions d'euros. Donc, est-ce que l'OL va faire cet achat d'un joueur convoité?
Et là, il y a certainement un départ pour équilibrer ça, non?
Bah, il y aura sûrement un départ. Oui, il va falloir, hein, parce que alors déjà il y a les départs qui sont cannes. Hein. D'une certaine manière, même si c'est pas, ça ne fait pas beaucoup de matchs, mais c'est quand même des matchs où il y aura le derby, il y aura le match face à Paris peut-être. Voilà, donc il y a un calendrier compliqué au mois de janvier. Donc, Kaltoko Ekambi, Tino Kadewere, Islam Slimani. Donc, en termes de...
Oui, il faut un attaquant, c'est sûr.
Il faut déjà un attaquant, oui. Ouais.
Alors, il nous reste 3 minutes, Edouard, mais donc Juninho va partir dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui se dit au club sur la réorganisation? Est-ce qu'on cherche un nouveau directeur sportif? Est-ce qu'on va s'organiser différemment? Et puis Roland pourra donner son avis, bien sûr.
Non, l'urgence, c'est de remplacer Juninho, et l'urgence, c'est surtout de mettre en place une cellule de recrutement digne de ce nom à l'OL, parce que ça n'existe pas et ça n'a jamais existé au niveau. Ce qui est toujours, je crois que j'en ai déjà parlé ici même, c'est que le paradoxe lyonnais, c'est que au niveau de l'académie, ils ont des scouts partout, ils savent qui prendre dans le moindre coin de France et surtout de Rhône-Alpes, mais ce maillage-là pour les pros, ils l'ont pas. Donc au mieux, c'était trois personnes, hein, qui allaient regarder les matchs autour de Florian Maurice. Donc là, il faut reconstruire tout ça autour d'Alain Caviglia. Donc c'est surtout la priorité, c'est là-dessus, en sachant qu'à Lyon, le directeur sportif, on voit, ça fait pchit avec Juninho. Le seul, c'était un directeur technique à l'époque, il y avait Jacques Santini, hein, juste avant qu'il soit entraîneur. Après, quand Jean-Michel Aulas a voulu donner plein pouvoir à Claude Puel, on sait comment ça s'est terminé. Voilà, donc là, le rôle, c'est vraiment d'avoir une cellule recrutement pour savoir, pour ne pas se rendre compte en exagérant que le 15 août, on a besoin d'un arrière-gauche, quoi, en fait, ce qui était un peu le cas.
C'est un peu hallucinant ce que tu nous racontes, c'est qu'on parle de Lyon, là, on ne parle pas d'un club de
Lyon. Exactement, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça.
Coach, aujourd'hui, dans une structure comme Lyon, un directeur sportif, c'est indispensable?
C'est toujours pareil, le directeur sportif, pour moi, ça a toujours été un poste assez vague. Ça dépend le président, ça dépend le contexte, ça dépend. Donc, et qu'est-ce que c'est aussi le boulot du directeur sportif? Il y aura un boulot qui sera bras droit du président, après responsable du recrutement. Tu vois un petit peu la structure de l'OM et va parler de qu'est-ce que c'est un directeur sportif dans un club. C'est totalement différent.
C'est sûr qu'il y a autant d'attributions et de fiches de poste que de club, en fait, parce que ça dépend de plein de choses.
Et de feuilles de route. Feuilles de route,
C'est pour ça, n'oublions pas, excusez-moi, mais Gérard Rouillet qui malheureusement nous a quittés, avec quand même un poste important aussi. Bernard Lacombe, finalement, on le voit toujours présent et tout, ce qui est toujours sympa, mais ce sont deux gars qui sont quand même très importants aux côtés de Jean-Michel Aulas.
Ouais, et puis il y avait une vraie volonté de Jean-Michel Aulas quand il nomme Juninho en mai 2019 Love de se retirer un petit peu et de perdre le quotidien et de donner toutes les clés du camion à Juninho notamment, et ensuite secondé par dans l'aspect technique juridique avec Vincent Ponceau. Et là, bah, malheureusement, la greffe n'a pas pris à ce niveau-là. Mais clairement, sur ce coup-là, autant peut-être avec un Claude Puel ou d'autres, à un moment donné, c'est l'omniprésence du président qui avait peut-être un petit peu fait céder ce poste, en tout cas fragiliser ce poste. Là, en l'occurrence, c'est absolument pas, parce que la vraie volonté du président, c'était de se retirer un petit peu et puis de laisser faire ceux qui, à ses yeux, étaient les mieux, en l'occurrence Juninho et Vincent Ponceau.
Merci Edouard, merci Roland.
Salut Edouard.
On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour un prochain podcast After Lyon, bien sûr. Bye bye.
RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.